Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Brasil Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourgarel pour vous servir, tâchez de vous être agréable. Nous sommes en direct, nous sommes le 27 février et je reçois ce matin Marluce Campos. Bonjour Marluce.
Bonjour Gilles, bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Sophie Tsitsishvili de Panasket, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver.
Bonjour.
Nous attendons Véronique Mortaigne qui est en train d'arriver, je viens de la voir au téléphone, et nous aurons la participation à distance de Dominique Dreyfus qui n'habite pas à Paris et de Jérôme Pigeon. Et chères mesdames, j'espère que vous avez bien travaillé parce que je vous ai donné un petit peu de travail. Le principe de cette émission, c'est que chacun vient avec un disque de votre choix, non, enfin une musique quoi. Ne prenez pas l'air effrayé, Marluce. Chacun vient avec une musique, donc je vous ai demandé de réfléchir à une chanson. Et donc est-ce que vous avez bien fait votre travail?
Oui, pour ma part.
Marluce.
Moi aussi.
Bon, très bien. Mais ça, je n'en doutais pas, Marluce. Vous êtes une personne carrée et de confiance. On va commencer.
Aminera.
Minera.
Oui, mais expliquez,
tout à fait.
Mais expliquez ce que ça veut dire, Sophie, parce que...
Les mineros, c'est des gens qui n'ont qu'une parole et qui font les choses. Et quand ils disent les choses, c'est comme ça et c'est pas fluctuant.
C'est pas carioca. Voilà.
Mais qui sont les...
C'est pas carioca.
Mais qui sont les mineros?
Déjà, il y a Tiradentes, non?
Ce sont les gens qui sont nés dans l'état de Minas Gerais.
Voilà.
Ah, pardon, je croyais
que... C'est un état du sud-est du Brésil. Qui fait frontière d'ailleurs avec Rio de Janeiro,
oui.
Et avec São Paulo dans la partie sud-sud-est. Et voilà, ce sont ces gens-là qui voilà. sont des mineros.
Alors, je vais vous présenter Marluce Campos. Vous êtes productrice du programme de radio Nuance du Brésil que vous avez animé sur Radio Alpha et qui a été repris par des dizaines de,
oui.
d'autres radios.
D'autres radios partout en France.
Donc vous véhiculiez la culture brésilienne, la musique brésilienne. Vous êtes donc du Minas Gerais, vous êtes franco-brésilienne, vous habitez aujourd'hui à Paris. Et j'ai coutume de dire, pour les auditeurs, pour faire simple, que le Minas Gerais, c'est un petit peu l'Auvergne brésilienne. Est-ce que ça vous convient,
Je
si on dit ça?
Je suis tout à fait d'accord, tout à fait. Et même le peuple de Minas Gerais, il a quelques similitudes avec les peuples de l'Auvergne. J'habitais moi-même pendant 3 ans à Clermont-Ferrand.
Ah oui.
Intermittente, hein, j'étais là et ici, mais j'étais beaucoup là-bas. Et j'ai trouvé vraiment que ça collait, cette chose-là.
Bon, la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de volcan au Brésil.
Ah non,
bon,
non, ils sont tous morts déjà depuis... Trop longtemps.
Non, mais en Auvergne aussi, ce sont des volcans qui sont éteints.
Oui, mais qui ont 6 000 ans,
oui.
6 000 et quelques. Ouais, chez nous, c'est beaucoup plus vieux que ça. Nous avons de l'eau chaude encore et tout ça, mais c'est, je ne sais pas, des milliards d'années, je ne sais rien, mais c'est très long.
Sophie Tsitsishvili de Panasket, vous êtes franco-brésilienne, vous avez vécu, mais même vous continuez à habiter à Rio par intermittent, enfin vous êtes entre la France et le Brésil on va dire, vous êtes la directrice artistique du festival Paroles et Merveilles et nous avons été partenaires d'un événement que vous avez proposé. Qui était le forum de demain, le forum do amanhã, et Aligre FM était partenaire, c'est une grande fierté pour nous, c'était fin septembre 2025 à Paris. Donc merci de revenir nous voir à la radio, à Radio Aligre. On va commencer, donc chacun est venu avec une musique, mais je voudrais qu'on dise un petit mot sur le carnaval de Rio, si vous êtes d'accord, qui vient de s'achever.
Oui, oui.
Est-ce que vous avez suivi le carnaval de Rio?
Pas énormément cette fois-ci. J'ai juste vu que... Je ne me souviens même plus qui a été champion. J'ai regardé les champions.
Viradouro.
C'était Viradouro, voilà. J'ai vu, j'ai lu, c'est lui qui a gagné, etc.
L'église.
Mais j'ai déjà oublié.
L'église, qu'est-ce que je raconte? L'école de samba qui a gagné, c'est Viradouro.
Voilà.
Parce que le carnaval de Rio, c'est aussi un concours, il y a un jury. D'ailleurs, j'ai une question. Parce que l'école de samba qui a ouvert le carnaval, qui est une école... que je ne connaissais pas, qui s'appelle Academias de Niterói. Je ne connaissais pas cette école de samba. Elle a ouvert, donc dimanche, le 15, le carnaval. C'était la première école à défiler. Et elle a proposé un défilé qui est un hommage au président Lula et qui a tourné en dérision l'ex-président Jair Bolsonaro, qui est aujourd'hui en prison et qui était représenté comme un clown. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas du tout plu au jury. L'école est arrivée dernière Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, elle est rétrogradée en deuxième division.
Oui,
et Samar, alors moi, je me pose une question. Est-ce que pendant le carnaval de Rio, il vaut mieux plutôt observer une espèce de trêve olympique et on oublie la politique parce qu'on est là pour se divertir? Je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'aimerais bien avoir votre éclairage, parce que ça m'a rappelé un très vieux carnaval, je crois que c'était en 2016, où j'assistais à Rio de Janeiro. Et là, il y a eu une petite école qui est l'école qui était l'école Rossigne. Je ne sais même pas si elle existe encore.
Ouais,
approchez-vous peut-être un petit peu du micro, Sophie.
Académicus da Rossigne, voilà. Si, j'ai participé
vous
beaucoup
participé
à la construction des chars de la Rossigne.
Ah,
si.
Ben vous étiez un peu voisine de la Rossigne, parce que vous étiez au Vigigao, c'est pas très très loin.
Ouais.
Et ben cette année-là, Rossigne a eu la mauvaise idée, entre guillemets, de proposer un thème sur les personnages de Walt Disney.
C'est à celle-là que j'ai participé, j'ai construit des chars et j'avais moi-même assumé la construction du char d'Alice au Pays des Merveilles.
Alors, ça n'a pas du tout fonctionné. Le jury n'a pas du tout aimé parce qu'on s'est dit, mais on n'est pas à Disneyland. Et Rossigne a été rétrogradé en deuxième division. Donc, je me pose la question.
Et quelle est la question?
Eh ben, je vous laisse la patate chaude. Je vous laisse à Sophie
d'analyser,
et Marlous.
D'analyser.
Eh ben,
qu'est-ce que les gens du Brésil, du carnaval, attendent du carnaval?
On est supposé quand même.
Mais non, mais je ne suis pas d'accord du tout. Le carnaval, c'est une façon allégorique de justement représenter ce qui se passe dans le pays. Et ils peuvent choisir d'être politique ou non. De toute façon, il y a toujours un contenu de réalité et de l'actualité qui est amené dans leur défilé, partout, chaque fois.
Alors, je vais vous laisser la parole, Marlous Campos, mais ce qu'on demande, ce que le Greich, le Greich, ça veut dire quoi déjà? Je ne sais plus.
Gremio
Académico.
La Ligue,
qui organise. Il est conseillé, ce n'est pas imposé, mais plutôt de raconter une région du Brésil, un personnage, une tradition, un fait historique, mais on a le droit de parler des personnages de Walt Disney, mais en fait, c'est plutôt déconseillé, parce que résultat des courses, on a des mauvaises notes et puis on se fait recaler en deuxième division. Donc,
je ne sais pas si les décalages s'est fait simplement par ce choix-là, ou s'il s'est fait aussi parce que les fantaisies peut-être n'étaient pas à l'auteur, la musique qui accompagne l'école de samba, peut-être elle n'était pas bien, peut-être qu'à l'aula d'abertura, les gens qui viennent pour ouvrir les défilés,
le cortège d'ouverture,
peut-être qu'il n'était pas bien, peut-être que la sambiste principale. Il a plusieurs critères.
Mais je pense qu'il y avait aussi, sur ce coup-là, par rapport à la Rossigne, politiquement, ce n'était pas correct d'amener Walt Disney dans l'avenue.
C'est parce que ça se considère que le carnaval, c'est vraiment quelque chose de très, très brésilien. Très,
c'est donc, plutôt dans ce sens-là.
Plutôt dans le sens d'attacher aux choses du Brésil.
C'est
voilà.
Et sur le plan purement politique, de faire un hommage à Lula et de ridiculiser l'ancien président, c'est plutôt une mauvaise idée
a dit Sophie, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, c'est vrai. Dans une démocratie, c'est ça. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, ils risquent vraiment de ne pas être bien reçus, que ce soit pour l'un ou pour l'autre.
La façon d'amener le carnaval. Il y a un déroulé.
Oui.
C'est pas le thème, c'était pas le président Lula. Le thème, c'était l'ouvrier Lula. C'était l'homme.
Parce que Lula,
c'est son histoire,
ouais,
c'est pas l'histoire
Lula
du président. Après que ça a été tourné, que ça a été récupéré, que ça a été instrumentalisé, ça, c'est une autre histoire. Parce que sur le principe, ils ont voulu parler de l'homme et de son parcours. Ok, après, comme le dit exactement Marlous, c'est une façon d'amener le déroulé qui peut ou pas plaire par rapport au costume, par rapport à la musique, par rapport... C'est tout. Je pense qu'il y a une énorme dose d'instrumentalisation sur ce coup-là.
Alors, vous avez raison.
Que ce soit d'un côté, que ce soit dans l'autre, hein, Sophie, parce que le fait de choisir cette histoire de Lula d'une façon ou d'autre, c'était vraiment... pour faire une pub du monsieur dans l'année de l'élection. Et deuxième, c'est qui Là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc,
non, mais Sophie a raison de préciser que l'actuel président Lula est un ancien ouvrier. Et voilà, c'est... Bah oui, il était ouvrier...
Il avait 14 ans,
oui.
17 ans, oui.
Voilà. Pour le plaisir, Marlous Campos, j'aimerais que vous nous fassiez lecture. Je vais vous donner ça. Vous allez nous citer... Alors attendez, il faut que je fasse un petit effort, voilà. Vous allez nous citer... Depuis 2000, vous avez vu, ça c'est mes petites notes
d'accord.
personnelles depuis je ne sais 2000, pas quand, 2000. Je note à chaque fois
les champions,
l'école de samba qui a gagné le carnaval de Rio. Et juste pour le plaisir d'entendre le nom des écoles de... Ah, je ne vous ai pas demandé d'abord, est-ce que vous avez une école de samba, vous, à Rio, Marlous?
Moi, j'aime bien celle d'Aile do Governador.
Oui. Qui a déjà gagné plusieurs fois le carnaval.
Qui a déjà gagné aussi plusieurs fois. Bon, moi, en fait, comme mineira qui habitait à Rio, je n'ai pas vraiment une attache spécifique. J'ai quelques-unes qui me sont sympathiques. Voilà, c'est comme les foot aussi à Rio.
Quelle est votre équipe de foot?
Mon équipe de foot, ce sont quelques-unes. C'est Fluminense, c'est Botafogo, c'est Vasco. Donc, ce sont celles qui me sont plus sympathiques.
Vous avez
dire.
Commencé par la meilleure, Fluminense, c'est très bien. Et vous, Sophie Tsitsijvili de Panasket, est-ce que vous avez une école de samba à Rio?
Alors, parce que j'habite dans la zone ouest, j'ai dans le cœur la Mocidade Independente do Padre Miguel.
Oh, bah,
oh, celle-là
Mocidade
aussi,
Independente
j'ai
du Padre
amouré,
Miguel.
J'ai eu un amouré à Padre Miguel.
C'est mon école de samba, vous me faites
j'ai
très plaisir, Sophie.
Mon premier défilé, c'était avec Salgueiro.
Oui, super école.
Et je travaille avec Portela depuis quelques années.
Merveilleux.
Donc voilà.
Merveilleux, l'école la plus titrée du carnaval. Vous avez très bon goût, hein, Sophie.
Je vous remercie. En tout cas, j'ai fait, sur ces 30 dernières années, j'ai participé à 25 carnavals.
Ah, waouh!
Mais vous avez participé comment?
Je travaille. Je travaille dans les baraquants, je participe
à la
construction des chars.
C'est les hangars où on construit ça. Ouais.
Je participe à la construction des chars, mais je fais surtout défiler les enfants dans les...
Ah oui.
Dans les écoles Mirin,
oui,
dans
les écoles
des
enfants. Ouais.
Et ça, c'est un travail énorme qui se fait en lien avec le juge des mineurs, qui se fait en lien avec les familles, qui se fait en lien avec les écoles municipales. Et on fait défiler comme ça jusqu'à 3000 enfants
mais
dans
c'est
les
génial.
Écoles.
Je ne savais pas que vous aviez fait ça,
mais tu
Sophie.
Sais pas grand chose. Vous ne savez pas grand chose.
Je
ne
sais
moi,
pas tout, je
ne
sais pas tout, mais c'est pas
et
la première
fait,
fois qu'on se rencontre.
Et en fait, c'est avec Villa Isabelle.
Oui.
Villa Isabel, belle donc c'est Herderos da Vila, c'est avec Estrelinha da Mocidade, pour la Mocidade Independente, c'est avec Filhos da Águia, avec Portela, il en reste une je crois, je ne sais plus, mais en tout cas ces trois-là, Mocidade, Villa Isabel et Portela, c'est les Escola Mirim.
Et ben moi,
super,
avec lesquelles
c'est
génial.
Je ne connaissais pas ce travail non plus.
Je découvre,
super,
et ben, j'aimerais bien qu'une prochaine fois, quand vous revenez à Paris, on parlera de ça plus longuement si vous êtes d'accord.
C'est mon bonheur, c'est un honneur à chaque fois de pouvoir les accompagner. C'est un travail énorme de pouvoir mettre en place une halle, un groupe d'enfants.
Oui. J'aimerais,
une halle,
Sophie,
c'est un cortège. On
va
essayer de parler en français pour les auditeurs.
Oui, on va essayer d'expliquer quand même qu'est-ce que c'est une école de samba, parce que les gens ici en France, ils pensent que c'est une école où on va pour apprendre quelque chose.
Oui.
C'est pas du tout ça.
Non. Alors, c'est une confusion, si je peux me permettre. C'est que, avant qu'il y ait vraiment des baraquins, comme disait Sophie, c'est-à-dire des hangars, parfois les répétitions avaient lieu dans une école municipale et on a continué à dire école. Alors qu'une école de samba, c'est un groupe, c'est organisation.
Oui, une organisation, une association.
C'est une association.
Des gens qui
Il y a des gens qui participent, il y a des gens
qui créent un thème pour faire les défilés et autour de ces thèmes-là.
J'avais oublié Flore do Amanhã, qui est l'école d'enfants de Béjafour.
Alors, moi, je me permets de rajouter quelque chose, Sophie, c'est que vous êtes une personne qui a tourné vers les autres et ça a été l'engagement de toute votre vie. Vous avez votre association qui s'appelle les Apprentis de l'Espérance, etc. Vous avez emmené des gamins au Brésil, des gamins de la banlieue du 93. Vous êtes vraiment... C'est votre truc, Sophie. Vous êtes tournée vers les autres. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que le carnaval, ça, c'est aussi du lien social. C'est pas que des paillettes et de la samba et on fait oba oba et on saute dans tous les sens. C'est aussi du lien social parce qu'il y a des gens qui... comme vous le disiez, Marlous, prépare, fabrique des costumières. Et ben parfois, la costumière, c'est une dame qui est un petit peu âgée, qui est veuve, qui a du diabète. Et ben elle se rend utile. C'est bon pour l'estime d'elle et ça crée du lien social. C'est vraiment quelque chose de très, très fort, le carnaval de Rio.
Oui.
C'est pas c'est pas que la chose qu'on voit à la télévision qui brille et qui fait mal aux yeux.
Oui, pour arriver à cette chose-là, il a beaucoup, énormément de travail derrière. Hein. C'est clair.
Un énorme engagement de la part des communautés qui participent dans les périphéries. C'est un marché, comment on appelle ça ? C'est du commerce, beaucoup d'argent
c'est
qui transite.
C'est un gros budget.
Énorme budget, mais comme un grand spectacle, c'est le plus beau et le plus grand spectacle au monde, ça draine toutes les professions, tous les artisans du spectacle vivant sont engagés sur un tel projet.
Au Major Show do Mundo, c'est le plus grand spectacle du monde, c'est le Carnaval de Rio. Vous écoutez Aligre FM, vous écoutez Brasil Alto Astral. Nous sommes en direct et Véronique Mortaigne donc nous a rejoint. Je me suis permis de vous présenter Véronique Mortaigne en disant que vous alliez arriver. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur. Vous avez été la programmatrice de la saison du Brésil en France en 2025. Vous avez sorti plusieurs compilations. Vous êtes tout à fait... Alors, on est un peu... Bonjour, Véronique Mortel.
Mais bonjour, merci beaucoup.
Vous êtes tout
beaucoup.
À fait excusée. Vous étiez dans les transports.
Bonjour.
On a commencé l'émission et moi, je tenais à vous avoir. On va avoir aussi Dominique Dreyfus au téléphone et on va avoir aussi à distance Jérôme Pigeon, parce que Jérôme Pigeon travaille la nuit. Il est DJ, donc c'est un peu tôt pour lui. Voilà. Et on est un peu tous des passeurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Marlous, Sophie, Véronique, et c'est ce qui nous rassemble, et c'est pour ça que j'ai demandé à chacune d'entre vous de préparer une musique qu'on va écouter alternativement, mais juste pour le plaisir, Marlous, s'il vous plaît, faites-nous lecture, on vient de terminer sur le Carnaval de Rio, Véronique Mortaigne.
Formidable.
Voilà. Faites-nous lecture juste pour entendre ces mots magnifiques qui sont les noms des écoles de soirée. Faites-nous lecture, depuis 2020, vous nous donnez l'année et le gagnant, s'il vous plaît.
Depuis 2020.
Ouais.
Donc, 2020, Viradouro. 2021, pas de carnaval, pandémie. Donc, não teve carnaval por causa da pandemia.
Bah, faut parler en français quand même.
Oui. 2022, Grande Rio. 2023, Imperatriz Leopoldinense. 2024, Viradouro. 2025, Beija-Flor. 2026, Viradouro.
Est-ce que, Véronique Mortaigne, vous avez une école de samba à Rio?
Moi, je suis manguerense. Je suis manguera depuis
toujours. Oui, oui. Bon, l'école la plus populaire, manguera.
Si vous le dites.
C'est l'école la plus populaire.
C'est l'école d'un certain nombre de mes amis.
Ouais.
De mes amis artistes aussi, enfin que donc j'ai suivi et puis je trouve qu'il y a une énergie, j'aime bien le vert et rose, tout ça me plaît.
Qui sont les couleurs, parce que chaque
il y a toujours
son drapeau. Est-ce que vous avez, pendant qu'on y est, Véronique Mortaigne, est-ce que vous avez une équipe de foot à Rio?
Non. Vous alors là, franchement, non, ni à Rio ni nulle part. Donc, je suis un peu nationaliste comme tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a un jeu avec le Brésil, je suis pour le Brésil.
Ah oui.
Mais quand c'est la France, c'est un peu plus délicat. Oui, c'est plus délicat parce que quand même, je suis française. Donc,
Vous êtes française, mais vous avez vécu au Brésil, Véronique Mortaigne.
Absolument, mais néanmoins, oui. Je suis née à Paris. Et donc, je suis française et en plus parisienne. Je devrais avoir une équipe parisienne pour bien faire. Mais enfin, franchement,
Ça pourrait être l'équipe de foot de Chico Buarque.
Oui, pourquoi pas.
Parce que Chico Buarque a créé une équipe de foot amateur.
Absolument, oui.
Je crois dans le bois de Vincennes.
Oui, absolument, mais bon, ça passe pas à la télévision avec de la bière et des
popcorn. Chico Buarque, c'est peut-être un nom qui va revenir au cours de ce Brésil Alto Astral. Vous écoutez Aligre FM, donc chaque personne ici présente a préparé une musique que nous allons passer. On va commencer avec vous, Sophie Tsitsijvili de Panasket, parce que alors là, vraiment, vous avez choisi un ovni musical. Je ne connaissais pas, ça a été vraiment une découverte pour moi, donc on va commencer par vous. Mais, Véronique Mortaigne, pendant que vous étiez en train d'arriver, on a donc annoncé le Carnaval de Rio, et j'ai commenté que l'école de samba qui a ouvert le carnaval, qui est Académicos de Niterói, a proposé un défilé en faisant référence au président actuel Lula et en ridiculisant l'ancien président Jair Bolsonaro, qui était représenté sous des traits clownesques, qui est aussi le surnom, un des surnoms de l'ex-président Bolsonaro. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. L'école s'est complètement plantée, excusez-moi l'expression, et elle va être reléguée en deuxième division. Donc, je vous pose la même question, la question que j'ai posée à Marlous, la question que j'ai posée à Sophie. Est-ce que c'est plutôt une mauvaise idée de faire référence à la politique? Est-ce que pendant le carnaval, on veut juste oublier la politique et faire la fête? Et est-ce que... on ne devrait pas observer pendant le carnaval une espèce de trêve olympique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah non, pas du tout. Je pense que le carnaval est tout à fait politique. Et d'ailleurs, mon école, Manguer, je me souviens d'un défilé où il y avait des Christs en icône gay, noire, etc., qui avaient fait scandale au moment où,
ah oui.
Il y avait... Bah oui, enfin, je veux dire, il y a toujours un contenu politique, et depuis très très longtemps. Par contre, je trouve que de faire un défilé sur Lula, alors qu'on est dans une année électorale, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'était un jeu dangereux, même pour Lula. Hein, parce qu'on pouvait lui reprocher, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas allé défiler aussi, parce qu'on pouvait lui reprocher d'un point de vue purement législatif,
d'être présent
et de faire ainsi sa propagande électorale.
Oui.
Donc c'était un jeu dangereux de toute façon, et c'est clivant, parce que le Brésil quand même est clivé, comme on est en train de l'être ici maintenant.
Donc c'était plutôt une mauvaise idée, et pour la peine, Academicos Genitaloi seront relégués en 2027 en deuxième division du carnaval. Nous sommes en présence de Marlous, Quimpouche, Sophie, Tsitsichvili de Panasket, Véronique Mortaigne. Allez, maintenant c'est à vous de travailler. Donc, chaque personne a... Je vous ai fait la même demande, je vous ai demandé de préparer une musique qui est à vos yeux remarquable pour la qualité de ses arrangements. Donc j'aimerais, Sophie, que vous nous présentiez cette ovni, j'ai pas d'autre mot, je ne connaissais pas. J'ai presque trouvé que c'était un peu limite kitsch.
Alors, c'est très kitsch parce que ça s'est passé en 83 ou 84, je ne sais plus, lors du festival MPB Shell qui avait lieu à São Paulo, auquel j'ai participé avec un groupe de jeunes filles.
Ah,
ouais, c'était
mais
drôle.
Vous êtes partout, Sophie.
Oui.
J'avais participé en produisant un petit groupe de nanas, ça s'appelait Cordy Rose. Mais j'ai découvert Tarancon, Lula Barbosa et Miriam Mira, qui sont devenues mes amies ensuite. Ah. C'est des gens qui travaillaient...
La chanteuse, hein, on est d'accord.
Myriam Miela, qui est décédée depuis,
ouais,
malheureusement. Une voix extraordinaire, un cœur fantastique, comme la plupart des Brésiliens. Mais... et ils travaillaient beaucoup dans la périphérie nord de São Paulo, avec des musiciens et des percussionnistes. Et Tarancon a proposé un travail absolument extraordinaire. Alors, c'est quand Leila Pinheiro a gagné avec Verde, qui est ma chanson fétiche, n'est-ce pas, qu'on avait écoutée la dernière fois.
Non, c'était une chanson de Fafa Djibelin qu'on avait passée.
Oui, ça, c'est la chanson des Apprentis de l'Espérance.
Ah, il y avait aussi Leila Pinheiro. Vous avez raison. Leila Pinheiro.
Donc, en fait, j'ai découvert Leila Pinheiro qui a gagné ce jour-là pour le festival. Mais quand Tarancon est arrivé avec ses percussions hallucinantes, j'en ai des frissons rien que d'en parler, et cette énergie qui a contaminé toute la salle. Non, c'est d'ailleurs pas Leila qui a gagné, c'est Tété Espíndola.
Ah, mais c'est marrant parce qu'elle m'a fait penser à Tété Espíndola un peu, Miriam.
Si, voilà. Alors donc, en fait, il y avait ces trois grandes voix et ces trois grands groupes qui se sont exprimés ce jour-là, et c'était juste gigantesque.
Parce que, excusez-moi, mais Tété Espíndola, parfois, je trouve que c'est limite kitsch. Je me permets, hein. Elle a un talent, elle a une palette musicale, enfin, c'est une des plus grandes chanteuses du Brésil, mais parfois, surtout en début de carrière, je trouve que c'était un peu limite kitsch ce qu'elle faisait. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc là, on est en 1985, c'est la demi-finale du festival. Est-ce que vous êtes sûr que c'est à São Paulo?
Certaines, j'y étais.
Ok,
comme tu disais.
Parce que dans le commentaire, alors je vais demander à la technique, on va conserver le commentaire. Donc, parce que d'abord, dans l'extrait que vous m'avez envoyé, il y a d'abord Nelson Motta.
Absolument.
Qui présente...
Mais ça, je l'ai fait en hommage à vous, Gilles, parce que je sais que vous avez une grosse tendresse pour Nelson,
ouais,
et que vous vous êtes beaucoup inspiré de tout son parcours. Et donc, c'était un petit clin d'œil quand je vous ai envoyé ce lien.
Eh bien, on va le conserver. Nelson Motta, donc, c'est un producteur qui est toujours vivant. Il a 80 ans. Aujourd'hui, il a 81 ans. Nelson Motta, bon pied, bon œil. qui a été un des plus grands producteurs de la Philips, qui avait à l'époque le plus grand, qui était en position de monopole quasiment.
Journaliste, oui, critique aussi. Nelson Motta est écrivain, il a fait beaucoup de...
Bien sûr, et puis producteur de spectacles, absolument, oui, organisateur de festivals. Donc aussi, voilà.
Vous l'avez connu quand il organisait des concerts en haut du Pain de Sucre. C'était les nuits du Pain de Sucre.
Non, mais là, il faut qu'on fasse tout. Alors là, on peut faire une émission.
Toute l'histoire.
On peut faire une heure là-dessus parce que vous avez tout à fait raison, Sophie. Nelson Motta a eu une boîte de nuit provisoire dans un centre commercial à Gavia qui était en construction et le promoteur lui a dit « Attendez, on a des locaux, le centre commercial n'est pas terminé. Est-ce que vous ne voulez pas nous louer un étage? On vous fait un tout petit loyer. Vous pouvez faire tout le boucan que vous voulez parce qu'il n'y a pas de voisins. » Et donc là, il a eu une boîte de nuit qui s'appelait le Neutsch Kalioch à temporaire pendant quelques mois qui a cartonné. Donc tout le monde se précipitait pour danser. On était dans les années 80 sur la pista di danza di Neutsch Kalioch. Et puis à un moment, le centre commercial a été livré, donc Terminado, la boîte de nuit. Et un producteur lui dit « Mais Nelson Motta, vous avez un carnet d'adresses incroyable, vous connaissez hyper bien la musique, est-ce que vous ne voulez pas faire une autre boîte de nuit ?» Et là, au téléphone, pour rigoler, il a dit « J'accepte, sauf si c'est au sommet du Pain de Sucre. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert... Non, ça s'appelait le Dancing Days, pardonnez-moi, dans le centre commercial à Gavert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour rigoler, il dit « Oui, mais sauf si c'est au sommet du Pain de Sucre. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert ensuite le Neutsch Kalioch, où on accédait en téléphérique. Et moi, j'ai dansé la lambada quand j'étais jeune, comme un malade.
J'ai dansé énormément, j'allais tout le temps. Toutes les rock Brésil des années 80 passaient dans les Neutsch Kalioch.
Et puis c'était
génial.
Et puis moi,
j'habitais à Urca à ce moment-là.
Vous étiez en bas, et c'était, et c'était la plus belle boîte de nuit du monde.
Ah oui,
on était
magnifique.
À l'air libre, on avait la baie de Rio. Oh là là, ça me donne un coup de saoudage, ça. C'est Brasil Alto Astral, vous écoutez à Ligre FM. Donc, dans la vie, moi, j'ai une devise, il faut faire travailler les autres. Donc, je vous ai demandé de préparer un petit peu. Et nous écoutons maintenant le premier choix musical de Sophie Tsitsishvili de Panasket. On est en 1985.
Segunda, última da noite, Lula, Barbosa e Vanderlei Castro, Miraíra. Essa música foi ovacionada, levantou a galera em São Paulo e é um épico latino-americano com tudo para isso. Essa música teve seu nome, o título dela é baseado, Miraíra, na expressão Tupi-Guarani, olha como eu estudei. Tupi-Guarani, que quer dizer povo de mel e pretende ser um elogio à beleza da raça brasileira. Mas a música tem sua inspiradora principal na cantora Miriam Mirá, que está aí no palco do festival. O arranjo é de Mário Lúcio Marques, com Miriam Mirá, Lula Barbosa, os excelentes grupos Tarancon e Placa Luminosa.
We'll be right back. vento sopra, continente Norte América teve.
Mira num olhar, um riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar.
Vous écoutez Aligre FM, nous sommes dans Brésil Alto Astral avec Marlous Campos, Sophie Tsitsijvili de Panasket, Véronique Mortaigne, nous aurons Dominique Dreyfus à distance. Merci, alors ça c'est une trouvaille, merci Sophie, c'est votre choix, vous avez sélectionné cette musique. Alors l'enregistrement, on est en 1985, n'est pas parfait techniquement parlant, mais c'est vraiment une trouvaille pour moi, une découverte, donc merci de m'avoir fait, je ne connaissais pas cette chanson. Est-ce que vous voulez bien désannoncer le morceau, Sophie?
Alors, nous avons écouté le groupe Tarancon, accompagné de Mira Ira et de Lula Barbosa, qui sont tous les deux aux arrangements de cette chanson, qui rend hommage aux populations indigènes de l'Amazonie, du haut du Pérou jusqu'au fin fond du Brésil. Et moi, je suis très, très émue d'écouter ça à nouveau, parce que c'est vraiment, quand j'ai mis le pied au Brésil, à São Paulo, juste... magique d'avoir été invité à travailler sur ce festival et découvrir Mira Mira, qui malheureusement est partie brutalement il y a très peu de temps, d'ailleurs il y a 5 ou 6 ans. Et Lula Barbosa, qui est un peu la voix de Milton.
Oui, de Milton et Cimento, un peu le même timbre de voix.
De venir se produire ici en France. Donc si des gens sont intéressés pour découvrir Lula, nous pouvons y travailler.
Alors, il s'appelle Lula, mais c'est...
Mais c'est Lula Barbosa.
Claro,
c'est pas le président.
C'est le chanteur.
C'est Brésil Alto Astral, vous écoutez Aligre FM. Marlous Campos, ça va bientôt être à vous. Vous avez sélectionné une musique pour la qualité de ses arrangements. Mais avant que vous nous la présentiez, est-ce que vous pouvez faire lecture de l'expo photo qui est en train de se tenir à Paris?
Ah, bien sûr. Et donc, Paris rend hommage à les photographes brésiliens Sebastião Salgado du 21 février au 30 mai. Ce sont 200 œuvres qui vont être exposés à l'Hôtel des Villes, qui sont déjà en exposition à l'Hôtel des Villes à Paris. L'entrée est gratuite du mardi au samedi. L'accès, c'est par la rue Lobo. Et il faut réserver en ligne parce qu'il faut garder votre place. Hein? Donc, sur le site paris.fr.
Ne faites pas comme moi, je me suis pointé mardi sans avoir réservé et je n'ai pas pu rentrer. Donc prenez la précaution de réserver. Quelle chanson avez-vous sélectionné, Marlous Campos, pour la qualité de ses arrangements?
Bon, alors, moi, j'ai choisi quelque chose qui est très, on va dire classique pour ça, qui c'est Domingo no Parque.
Bah, très emblématique, j'ai envie
c'est
de dire.
C'est complètement emblématique. C'est une chanson qui a marqué complètement une transition brésilienne, une transition au Brésil, musicale, une transition musicale au Brésil, en introduisant justement la psychodélie, les guitares électriques. Enfin, ça a marqué énormément. Et des arrangements de Rogério Duprat, comme on dit au Brésil, Rogério Duprat, Rogério Duprat. Donc, c'était un énorme arrangeur brésilien qui a arrangé cette chanson d'une façon magistrale. Vraiment, c'est pour moi, c'est... J'adore plein d'autres arrangements qui existent au Brésil, mais celui-là, pour moi, c'est la marque.
Alors, il faut dire que déjà, c'est une chanson de Gilberto Gil, qui est un des tropicalistes. Rogério Duprat, c'est vraiment l'arrangeur de la Tropicália. On est à la fête foraine, on est un dimanche, au parc parc de diversion en portugais, donc on est à la fête foraine. Et c'est une chanson qui est complètement cinématographique. On a l'impression d'assister à un film, c'est un drame passionnel. Il y a les deux oseaux, José et João, et la jolie
Juliane, qui on ne sait même pas si elle est jolie, parce que ça ne dit rien de Juliane. C'est très intéressant.
Oui, mais il la compare à une fleur, à une rose.
Oui, si tu veux. Mais
oui, non, mais
je
vrai,
pense
vous avez
que
raison.
La rose, elle rentre plutôt pour faire une blessure.
Oui,
sur,
c'est
sur
l'épine
José.
De la rose qui l'épine. A blessé. Parce que c'est un drame passionnel. Parce qu'en fait, José, qui ne travaille pas ce jour-là, il décide d'aller à la fête foraine. Et qu'est-ce qu'il voit sur la Roda Gigante, sur la grande roue? C'est son copain João, son copain qui est avec sa copine.
Voilà.
Donc, il se dit, mais il est pétrifié.
Mais, voilà. Mais là, c'est intéressant. Parce qu'avec un mot, Gilberto Gil présente João. Et là, on sait tout à fait qui est João. Avec un mot que c'est...
Lui, il travaille dans la construction. Il est ouvrier.
Il est...
Un travail à faire, autre na construção.
Oui, mais c'est qui donne la caractéristique de João.
Si vous ne parlez pas dans le micro, vous n'entendez pas.
Pardon, pardon. Pardon. Zut, j'ai perdu.
Non, mais ce n'est pas grave.
Mais bon, avec un mot, il détermine João et José. Mais il ne dit rien de Juliane. Juliane, c'est le centre de la tragédie,
c'est
on
vrai,
va dire.
Ouais.
Mais il ne dit rien sur Juliane.
Mais c'est une tragédie grecque parce qu'à un moment, il y a le cœur, il y a des voix de cœur qui vont dire « Oh, il y a fac, attention, il a un couteau. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il finit par poignarder son copain quand même. Il finit par... C'est un crime passionnel.
Bah, et la copine, Juliane, il tue les deux.
Je ne sais pas si elle meurt.
Oui, il a une question encore intéressante que je n'avais jamais me posée moi-même. J'ai présenté cette chanson à un Français, musicien. Et lui, il a compris qu'à la fin, José avait se suicidé. J'ai dit, mais comment t'as compris ça? Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça.
Mais
quand il dit, il n'a plus de vie pour José, bon, pour moi, c'est que José est allé en prison après tout ça. Mais pour lui, non. Pour lui, José aussi est mort. Alors, c'était très intéressant, cet abordage, parce que, bon, je ne sais pas comment il a eu cette compréhension, mais il a eu cette compréhension. Il faut demander à Gilberto Gil.
On va demander, vous avez le contact de Gilberto Gil, hein, Véronique Mortagne.
Oui, on va essayer de le trouver.
Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, Véronique?
Non, c'est sur Duprat, quoi, qui était...
Qui
était un arrangeur extraordinaire, mais qui avait étudié en Allemagne avec Stockhausen.
Ah bon,
même,
je ne savais pas.
D'accord.
Et donc, qui quand même avait un passé de musique érudite. Comme ça arrivait très souvent dans la musique brésilienne, dans la bossa nova, dans tous ces compositeurs énormes qui ont étudié avec, avec des compositeurs contemporains aussi.
Okay. Ah, oui, oui. Duprat, il a travaillé tout le temps, justement, en faisant les mélanges de la musique classique.
Exactement.
Avec les pop brésiliens, avec les guitares électriques, avec la capoeira, avec tous les tambours, tous les instruments.
Comme Tom Jobim, qui avait étudié la musique dodécaphonique.
Tom Jobim, il rêvait d'être Villa-Lobos, paraît-il.
Non, il rêvait pas.
Il s'inspirait. Il s'inspirait beaucoup. D'accord. Et c'était dans la lignée.
Et Villa-Lobos s'inspirait de Bach. Comme quoi, il y a toujours une lignée.
Tom Jobim, c'est plutôt Debussy, etc.
Jobim, c'était... Triangle musical au Brésil, des bases, qui c'est Villa-Lobos, Jobim et Edu Lobo, qui font une synthèse de tout ce qui vient à être la musique brésilienne.
Il est important de le dire parce que dans cette entreprise de tropicalisme qui déstructurait, qui mélangeait tout, etc., dont le disque que vous présentez, la chanson que vous présentez est le symbole le plus pur, d'une certaine manière, dans la poésie de Gilles, et ensuite dans la structure musicale, parce qu'il y a un vrai mélange, et Duprat, vraiment, c'était un musicien de haut vol.
Ah oui, et moi je trouve que... Alors, on va écouter maintenant Domingo no Parque, un dimanche à la fête foraine, et je trouve que c'est une chanson qui est complètement cinématographique, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le crime passionnel, et puis il y a les flonflons, parce que les gens mangent de la barbapapa. Pas, les autres n'ont pas vu qu'il y avait eu un crime et la fête continue.
Ça continue et ça devient guerre à nouveau. Oui. Dans tout le temps, elle est guerre, la chanson.
Et on a l'impression.
Et Gilles, il la chante en train de sourire, les moutantes en train de sourire, tous les moutantes.
Alors, les moutantes,
sourire,
c'est le groupe qui fait partie de la Tropicale qui chantait avec Gilberto Gil. Ils ont même gagné un festival, je crois.
Avec Ritali, la regrettée, la géniale Ritali, qui a été virée
des moutantes par ces deux petits salopios, là, les frères Ritali, je les déteste, ces deux-là. Je les déteste. Et à la fin, on a l'impression que la caméra va s'élever dans les airs, qu'on va avoir une vue panoramique sur la fête foraine qui continue. Il y a les autotamponneuses, il y a la grande. Donc c'est le choix de Marlous Campos Perotti, Gilberto Gil, un dimanche à la fête foraine.
O rei da brincadeira,
ei, José.
O rei da confusão,
ei, João.
Um trabalhava na feira,
ei, José.
Outro na construção,
ei, João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi dançando no peito,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi girando na mente,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
Juliana girando,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
O amigo João,
João.
O sorvete é morango,
é vermelho.
Foi girando e a rosa,
é vermelha.
Foi girando, girando,
é vermelha.
Oi, girando, girando. Olha a faca,
olha a faca.
Olha o sangue na mão. Juliana no chão. Outro corpo caído. Seu amigo João. Amanhã não tem feira. Não tem mais construção. Não tem mais brincadeira. Não tem mais confusão.
Alto Astral avec Marlous Kampouche, Sophie Tsitsichvili de Panasket et Véronique Mortaigne. Chaque personne vient avec une musique pour la qualité de ses arrangements. Marlous, vous avez choisi ses magistrales Gilberto Gil, un des tropicalistes. Alors, le tropicalisme, c'est un peu, on va dire, mai 68, l'apparition des guitares électriques. C'est un mouvement, voilà, c'est un mouvement artistique qui arrive d'une manière concomitante à mai 68. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tonzé, Rogério do Prat,
Gal Costa.
Ouais, mais Gal Costa, elle est... oui, mais bah,
si, oui.
Ouais, mais elle est pas auteur
compositeur.
Si, mais elle est pas auteur compositeur.
Mais alors.
Oui, c'est vrai. Ouais, vous avez raison.
C'était leur voix.
C'était la femme d'ailleurs du groupe, hein, faut pas négliger, le cher Gilles.
Ouais, c'est vrai.
Et quelle voix,
ouais.
et elle a tenu le tropicalisme pendant qu'ils étaient en exil.
Alors, vous avez
elle
tout à fait raison.
Elle a complètement tenu le mouvement.
C'est une
alors c'est vrai, elle a entretenu la flamme de la tropicale quand Gilberto Gil et Caetano Veloso se sont fait virer et qu'ils sont partis d'abord au Portugal et ensuite en Angleterre.
Oui, puis elle en a fait partie. On peut dire que Maria Bethânia, qui était dans le groupe aussi, n'a pas participé à ce mouvement.
Bethânia n'a participé
non,
pas du tout comme Gal Costa. Non,
elle n'a pas du tout, c'est ce que je dis. Oui,
voilà,
pas
tout à fait, je vous confirme. Tout à fait. Oui.
Bethânia, elle
ne
voulait pas.
Mais elle était tout le temps là, mais elle n'a pas participé. Alors que Gal, dans son expression,
elle donnait
son interprétation, son physique, etc. C'est important
exact.
Les interprètes, hein. C'est les auteurs-compositeurs, on s'en fout un peu.
D'ailleurs, Maria
peu, oui,
non, mais
oui.
D'ailleurs, Maria Bethânia n'est ni
exactement.
Compositeur, ni... mais c'est une interprète
magnifique. Comme Edith Piaf, comme Amalia Rodriguez.
C'est d'ailleurs pour ça que les auteurs-compositeurs sont devenus chanteurs au milieu de chemin. Parce qu'avant, les compositeurs, ils n'étaient pas chanteurs.
Absolument.
Ils étaient que les crooners.
Oui.
Et après, ils ont vu l'importance d'être chanteurs. Et voilà, ils se sont lancés.
Et y compris l'importance financière.
Ah bah oui, c'est beaucoup plus intéressant d'être compositeur, nous sommes d'accord. Donc c'était votre choix, Marlous Kampouche, Gilberto Gil. On va maintenant écouter Dominique Dreyfus, mais d'abord Marlous, vous avez aussi un festival à nous annoncer.
Donc les vendredis 27, samedi 28, dimanche 29 mars, c'est les numéro 22e édition du Festival des Choraux de Paris à la Cité.
À la Cité universitaire.
Voilà. Dans la Maison du Brésil, boulevard Jourdan, dans les 14e, il y aura des concerts et des ateliers. Il est dimanche 29 mai à 15 mars.
Ouais,
29
c'est
mars, pardon. À 15h, une roda de choro. Après, tu expliques, Gilles, s'il te plaît. Un rentrée libre. Donc, venez avec vos instruments pour faire les bœufs.
Voilà, c'est de la musique instrumentale, un peu...
Une production Club du Choro de Paris.
Alors, Dominique Dreyfus, qui est journaliste, qui est auteur, qui est réalisatrice de films, qui était la commissaire de l'exposition consacrée à la musique populaire brésilienne lors de l'année du Brésil en 2005 à la Villette, n'est pas à Paris. Mais je lui ai demandé aussi de participer et elle nous a procuré ce petit enregistrement.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Alors, qui dit arrangement dit bien évidemment arrangeur. Et j'ai tout de suite pensé à celui iconique des années 60 et 70 surtout, c'est-à-dire Rogério do Prat. En sortant des sentiers battus, il a contribué à changer le cours de l'histoire de la musique brésilienne. Il était formé à la musique savante contemporaine et a introduit la modernité dans la musique populaire brésilienne. Et Il est devenu une des composantes incontournables du tropicalisme, aux côtés de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Os Mutantes, Tom Zé, pour ne citer que les plus connus. Il a magnifiquement illustré l'esprit novateur et rebelle de ce mouvement qu'il a marqué de son empreinte. Je dirais même que sans Roger Duprat, le tropicalisme n'aurait pas existé, ou du moins n'aurait pas existé sous sa forme telle qu'on la connaît. Et c'est à lui que Chico Buarque, qui pourtant n'a jamais fait partie du mouvement tropicaliste, il était plutôt proche de l'univers de la bossa nova, c'est à lui donc que Chico a fait appel pour écrire les arrangements de son album « Construção », sorti en 1971. Il n'y a pas grand-chose à jeter dans l'œuvre globale de Chico Buarque. Mais « Construção », le morceau qui donne son titre à l'album, est sans aucun doute à mettre au panthéon des chefs-d'œuvre du répertoire musical universel. Dans « Construção », se souvenant qu'avant d'épouser la musique, il a fait des études d'architecture, Chico Buarque construit, plus qu'il n'écrit, une chanson. Double construction donc, puisque le texte narre le quotidien d'un ouvrier du bâtiment, avec une écriture géométrique tirée au cordeau. Chico décrit la journée de son personnage, du moment où il se lève jusqu'à celui où, en raison des conditions de travail déplorables, ce dernier tombe de son échafaudage et se tue. La monotonie dépouillée de cette vie est scandée de façon hypnotique par une succession de vers qui ont tous la même structure, une action, un complément circonstanciel, un épithète, sur lesquels Roger Duprat a posé un arrangement tout aussi dépouillé. Une guitare, une percue, qui reproduit les sons des outils du bâtiment, truelle, burin, massette. Chico, quant à lui, pose son chant volontairement monocorde sur cette strophe jusqu'à la chute. Chute de l'homme, chute du récit, et apogée du drame souligné par l'explosion soudaine d'une section de cuivre. S'ensuit la deuxième strophe, qui répète la précédente, presque, car dans cette nouvelle version, les épithètes changent de place, s'intervertissent, amplifiant la dimension tragique du récit. La voix se fait plus exaltée, l'instrumentation s'enrichit, l'orchestre s'emballe, l'arrangement accentue le drame à la manière de la BO d'un film, car en fait Construção est une chanson cinématographique. Et on pourrait dire presque que le duo Buarque-Duprat fonctionne comme Sergio Leone et Ennio Morricone. La troisième strophe poursuit le procédé. Mêmes actions, mêmes compléments circonstanciels, mêmes épithètes, mais là encore un autre ordre. Et le désordre s'empare du récit, l'intrigue se complexifie et en sous-main, la dénonciation de la situation sociale du pays et par là même de la dictature militaire qui le domine, s'intensifie dans un fracas d'instruments. L'humble ouvrier devient alors le protagoniste d'une symphonie du chaos. Et je dois dire que 55 ans après sa sortie, Construção n'a rien perdu de sa modernité, de l'incroyable intelligence de la construction de son texte et de ses arrangements, et surtout de sa beauté.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. A construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar.
Merci à la technique, René Clancy, assisté de Philippe Dunfort. À la semaine prochaine pour un autre Brésil Alto Astral.
Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. Um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plácidas.
Sentou pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a